les apéros radiophoniques. Radio Potu 107.5. L'aperitivo per la radio. Aperitivo per la radio.
Radio Potu.
Les apéros radiophoniques.
Et voilà, retour de Radio Potu sur la place de l'église à Brulioles pour un apéro radiophonique. En compagnie ce soir d'André Micou, André Micou qui est sociologue, et nous allons discuter avec lui d'un thème qui nous a été imposé par Renaud et Eric. Je vous annonce le thème, donc monde rural, indigène et nouveau venu, dialogue et malentendu. On va discuter avec vous, André Micou, pendant une petite heure. Donc on est sur la place de l'église, comme je le disais. Il y a quelques personnes autour de nous. Si elles veulent participer et poser des questions, elles sont bien sûr les bienvenues.
Voilà, et on va commencer peut-être par essayer de faire un petit historique de ce que c'est que les néo-ruraux, à partir de quand on a commencé à parler de ces néo-ruraux, et puis voir ce qu'il en est aujourd'hui de ces néo-ruraux.
Alors, on a dit qu'on allait parler là des indigènes et des nouveaux venus. Donc, les indigènes.
Bon, alors qu'il est 7h, on ne ment pas sur Radio Potu, il est bien 7h, l'église est là pour nous le rappeler.
6h.
Il est 6h, il est 6h et c'est jusqu'à 7h.
D'accord. Donc les indigènes sont ceux qui sont nés ici, et les nouveaux venus, comme leur nom l'indique, c'est ceux qui ne sont pas nés d'ici. Alors avant de parler des nouveaux venus ou des néo-ruraux, on a parlé des hippies. Je ne sais pas d'où ça vient ce mot de hippie, mais c'était dans les années d'après 68. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est des jeunes gens qui ont pris conscience que la vie qu'ils menaient en ville, c'est de cette époque qu'on a inventé aussi le slogan métro, boulot, dodo. On dit que c'est pas une vie. Et un certain nombre d'entre eux ont investi la campagne, enfin plus exactement, ils sont partis dans des endroits plutôt au sud, en Ardèche, dans la Drôme, dans l'Ariège, dans l'Aveyron. Ils ont un peu rêvé, certains. On s'est beaucoup moqué d'eux. On disait aussi les écolos, parce qu'on disait qu'ils mangeaient des carottes et qu'ils voulaient s'éclairer à la bougie. Bon, ça a fait beaucoup rire, mais je pense que ça a beaucoup changé les mentalités, parce que une fois passée la vague des hippies, qui étaient un peu qui fumaient pas mal, qui se baignait à poil dans les rivières, il fallait quand même passer l'hiver. Et à partir du moment où certains ont passé l'hiver, les populations indigènes, les populations autochtones, ont commencé à les regarder d'un autre œil en disant « Tiens, depuis le temps que nos villages meurent, que les écoles se ferment, promis à la mort lente, voient arriver alors c'est plus tout à fait les mêmes, c'est des jeunes actifs, des jeunes retraités aussi, qui, alors on pourra y revenir en détail, décident d'un mode de vie et viennent s'installer à la campagne pour vivre autrement qu'en ville. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui est bien, parce que ça veut dire qu'on vit mal en ville et que ça serait mieux si on pouvait bien vivre en ville. Bon, peut-être que ça fera réfléchir aussi les politiques urbaines, mais en tout cas, on ne peut que constater que ce mouvement. Et dernier point, les choses s'organisent même, je dirais, institutionnellement. Il y a un magazine qui s'appelle Village Magazine qui publie beaucoup d'articles et qui aide ces jeunes gens, parce que je parle surtout des jeunes gens, des jeunes couples, qui aussi ont envie d'aller à la campagne pour offrir un lieu de vie à leurs enfants. Donc il y a l'installation, la foire à l'installation à Limoges qui a lieu tous les deux ans et où maintenant c'est les collectivités territoriales des zones rurales qui font des offres. Ici on a un boulanger qui part, qui n'est pas remplacé, ici il nous faut absolument un épicier, on a des logements mais on ne sait pas qui va y mettre, il y a des fermes à reprendre, etc. Et de l'autre côté, des gens, surtout du Nord, hein, il faut dire aussi les choses, de la région parisienne, qui viennent faire leur marché et qui, au mois de les derniers jours de juin à Clermont-Ferrand, était organisée la première université européenne de l'accueil des nouvelles populations. C'était à l'instigation justement d'un collectif qui s'appelle Ville Campagne, qui est en train de faire signer par toutes les organisations, les parcs naturels, les associations des maires de France, une charte à l'accueil rural qui est signée et qui va tenter d'organiser ce mouvement parce que, comme on va peut-être le voir dans la suite de l'émission, tout n'est pas rose non plus.
Hein. Et parallèlement à ça, il y a aussi eu de profondes mutations dans le monde agricole. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces mutations ?
Alors, oui, parce que bon, alors moi j'ai coutume de dire qu'il y a l'espace rural agricole d'un côté, et puis pour dire ce qui est en train de se passer, je parle de la campagne. Alors, remontons à la début du siècle, du 20e, après la guerre de 14, on assiste à le début d'un exode rural. Qu'est-ce que c'est l'exode rural ? C'est les gens qui quittent la campagne pour devenir les ouvriers de la ville et fabriquer les voitures. Bon, donc, et ensuite, dans les années 60, peupler les grands ensembles. La France, à ce moment-là, a besoin c'est la reconstruction, etc. Donc on va avoir une campagne qui va se vider de la plupart de ses habitants, à l'exception des agriculteurs. Et donc la campagne va devenir, enfin le monde rural, va devenir un endroit où ne vivent plus que les agriculteurs. C'est aussi les artisans qui partent, c'est les commerçants, etc. Et ensuite, quand va arriver le mouvement de la modernisation, donc les lois agricoles, il s'agit là, comment dirais-je, on peut dire que la nation va passer un contrat avec la profession agricole à charge pour elle de nourrir les Français. Donc en gros, le monde rural est confié à une profession pour produire. Et ça va réussir au-delà de tout ce qu'on imaginait, puisqu'aujourd'hui, après le tourisme, c'est le secteur agroalimentaire qui est le deuxième poste de la balance commerciale. Hein. Donc, mais on n'a pas révisé le contrat. Hein. On n'a pas révisé le contrat. Et on résiste à des surproductions, donc des baisses de prix. Le paradoxe, c'est que cette agriculture aujourd'hui, elle ne permet plus de nourrir les gens qui la font. Donc, c'est la réforme de la politique agricole commune qui est dans les tuyaux et qui consiste finalement à revenir un peu en arrière et à dire l'espace rural, ça n'est pas seulement un espace agricole. C'est aussi un espace dans lequel on vit, dans lequel il y a des enjeux d'environnement, etc. Donc, régler aussi les problèmes des deux populations, de celle qui est toujours née ici et qui et puis les nouveaux qui arrivent, et alors les anciens peuvent dire mais pourquoi on en fait tant pour les nouveaux alors que nous on nous a laissé un peu crever sur place, quoi.
Ouais. Alors justement sur l'arrivée de ces nouveaux ruraux et leur impact sur l'agriculture, est-ce qu'eux ils ont amené une nouvelle façon de faire de l'agriculture par rapport à ceux qui sont là traditionnellement installés et qui font de l'agriculture dite productiviste?
Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'installent en agriculture et qui ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs. Hein. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que cette profession agricole, c'est-à-dire les pères disent à leur fils, c'est un métier de trop dur, va-t'en, va à la SNCF, va au PTT. Bon, aujourd'hui, ça revalorise d'une certaine manière le travail de la terre, mais d'une autre manière précisément, parce que ceux qui veulent faire de l'agriculture aujourd'hui, ils veulent pas faucher avec à la lumière des tracteurs, ils veulent pas, bon, et surtout ils veulent faire une agriculture, comme on dit, de qualité et respectueuse de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont parler les premiers d'une agriculture biologique, alors que ce soit biologique, organique, enfin bon, il y a toutes sortes d'écoles là-dedans. Peu importe, je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est nos contemporains se sont rendus compte que cette production à outrance, elle avait deux inconvénients majeurs. Des produits qui sont de moins en moins bons pour la santé et pour la terre, hein, pour la santé de l'environnement. Donc moi, je dis souvent, quand j'ai commencé à travailler en sociologue de l'environnement, le droit de l'environnement, ça faisait 2 pages. Aujourd'hui, ça fait 15 tomes, quoi. Ce qui veut bien dire que la société a pris conscience de cet enjeu.
D'accord. Alors que la place se remplit tout doucement, les gens se retrouvent autour de la buvette et écoutent fidèlement la radio. On va poursuivre sur le sujet. On a rencontré cette semaine avec le festival dans une ferme qui accueillait un spectacle, Alice Montaillé, qui justement s'est installée avec son mari il y a quelques années. Et elle nous parle un peu de pourquoi elle s'est installée à la campagne. On en discute juste après.
Radio Potu.
Moi c'est Alice Montalier, je viens de Bretagne, enfin je suis bretonne parisienne, on est dans la Loire depuis 4 ans et demi maintenant. Donc on a monté une ferme avec mon mari qui s'appelle Mathieu, qui est normand. Une petite ferme sur 30 hectares où il y a 35 chèvres, 10 vaches laitières, avec une transformation totale du lait. Et une commercialisation en vente directe en grosse partie.
Comment vous êtes arrivé ici alors et pourquoi avoir monté cette ferme ?
Alors par hasard, on est arrivé ici parce qu'il y avait la ferme ici qui se libérait. Et pourquoi avoir monté une ferme ? Pour pas avoir de patron. De toute façon, les patrons ne pouvaient pas. Donc à chaque fois qu'on en a eu un, il a fallu qu'on se foute sur la gueule à chaque fois pour parler poliment. Donc voilà, c'était inconcevable qu'on travaille toute notre vie pour quelqu'un, de toute façon. Alors, je vais préciser, on n'a pas repris la ferme. Il n'y avait rien ici. On a tout créé. On a repris un bâtiment là, qui est cassé la figure. On a la maison. Enfin, on a ce qui était en état, je veux dire, c'est la maison et l'étable. Après, il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait rien. Donc on a vraiment créé quelque chose. Donc c'est là, on est fiers aussi.
Radio Potu, 107.5.
Donc voilà, pour illustrer notre propos, donc cette réinstallation, cette recréation d'une ferme qui est récente et qui rappelle la démarche quand même politique des années 70, des néo-ruraux des années 70. Sur cette agriculture, donc ils amènent une nouvelle façon de faire de l'agriculture qui finalement se rapproche peut-être d'une ancienne façon. Comment ils sont vus, comment ils sont perçus, comment le bio est perçu en gros, est-ce qu'il y a une confrontation avec les agriculteurs productivistes ou...
Là, ce que je retiens, je vais répondre aux questions de ce que je retiens là, qui illustre bien ce qu'on a dit avant. Elle est bretonne, il est normand, hein, donc ils sont descendus. Une petite exploitation, donc 30 hectares, 10 vaches, 35 chèvres. Et ce qui est important, tout transformé, hein, et vente directe. Alors vente directe, c'est possible ici parce qu'on est à proximité d'une grande agglomération. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure de ces installations, elles concernent pas n'importe quelle campagne. Hein. C'est vrai, effectivement, c'est pas dans la Beauce, c'est dans la Brie, parce que là, c'est du productivisme, mais c'est pas non plus dans le rural à Dash, dans les bleds. C'est quand même c'est pas le périurbain, c'est au-delà du périurbain. Voilà, donc on a bien la caractéristique de ces nouveaux installés, et dernière caractéristique, elle le dit très bien. Il crée une activité pour un mode de vie. Hein, donc, je dirais, l'exploitation, c'est le moyen pour financer le mode de vie. Mais ce qui est le premier, c'est le mode de vie. C'est on ne veut pas avoir de patron. Hein. Donc, vous voyez, au lieu que dans l'agriculture productiviste, c'est la production qui est passée devant. Voilà, c'est ça, je dirais, la principale différence. Alors, c'est là qu'il peut y avoir un malentendu, parce que je dirais les gens qui ont été formés dans le modèle, celui que dit les chambres d'agriculture, les syndicats majoritaires, c'est on est quelqu'un quand on est un bon exploitant, qu'on fait des profits, etc. Voilà, c'est ce que vous disiez, c'est bien effectivement politique. C'est pas pour l'exploitation, pour la réussite matérielle, c'est pour le mode de vie qu'on invente des manières. Alors, sur là, je ne sais pas s'il s'agit de bio, je ne sais pas si... sans doute, on peut imaginer, oui. Donc, on retrouve les questions de qualité. Il n'est pas question d'environnement, mais on peut imaginer aussi que c'est aussi une agriculture respectueuse de l'environnement. Alors, comment c'est reçu par la profession agricole? Ben, je dirais pas très bien, parce que, d'une certaine manière... C'est quelque chose qui vient critiquer, qui vient faire constater que l'agriculture productiviste, aujourd'hui, elle est plus tenable comme elle l'a été. Moi, j'imagine qu'on risque d'avoir une espèce de zonage de l'espace. Les plaines fertiles, enfin fertilisées de plus en plus artificiellement pour une agro-industrie. Et puis des régions plutôt moyenne montagne où on aurait une agriculture de qualité à proximité des villes. Bon, alors c'est peut-être une agriculture à deux vitesses, hein, ce qui va aussi avec notre mode de vie, je dirais à nous citadins, hein, je suis citadin, tous mes repas de midi, je les mange je suis à la cantine. Hein, et à la cantine, je mange de l'industriel. Et puis, quand je reçois mes copains le week-end, je vais à la ferme, à Uniferme qui est dans Mornan, où je vais acheter et je vais faire de la cuisine. Si vous voulez, les Français mangent de plus en plus industriel. Mais le week-end, ou les vacances, ils apprécient retrouver une nourriture de qualité. Donc, vous voyez, c'est tout... Enfin, nous-mêmes aussi, on s'arrange un peu, on ne mange pas que du bio. Enfin, si, certains... Mais il faut regarder aussi les choses comme ça. Nos enfants à la cantine, le resto U, les restaurants d'entreprise, c'est plutôt de la nourriture industrielle. Voilà.
Et dans des régions comme ça où il y a à la fois les deux agricultures, est-ce qu'ils arrivent à se mélanger, à se parler, ou est-ce que c'est deux mondes totalement séparés?
C'est quand même assez séparé. Hein. Alors bon, il y a des... Ce qu'on peut espérer, ce qu'on commence à voir, c'est ce que l'agriculture officielle appelle agriculture raisonnée. Hein, c'est bien la marque, c'est bien l'indice que l'agriculture productiviste rend compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, moi, je trouve que c'est bien, je dirais, l'agriculture raisonnée. Chaque fois que les choses sont moins débiles, on doit s'en réjouir.
Mais elles ne sont pas encore intelligentes.
Voilà, si on veut, mais... j'ai vu les choses se passer dans le monde industriel. C'est bien des petits pas, c'est toujours par des petits pas que les choses avancent. Bon, on peut rêver du lendemain qui chante, ou de l'utopie, etc. Bon, de fait, les intérêts sont tellement importants. Les gens qui ont investi dans des machines, ils ne peuvent pas non plus admettre du jour au lendemain qu'ils ont tout faux. Mais une agriculture raisonnée, c'est on commence à devenir raisonnable aussi, on peut dire ça. Ouais.
Justement, là, on parle essentiellement des néo-ruraux, c'est-à-dire finalement des urbains qui viennent faire de l'agriculture. Mmh. Par contre, il y a des urbains qui viennent s'installer aussi à la campagne, oui, qui ne font pas d'agriculture. Quel est leur statut et comment ils arrivent à rentrer dans ces villages
Moi, je dirais que les citadins, les urbains qui viennent s'installer à la campagne pour y vivre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a ceux qui viennent pour y résider et puis qui repartent tous les matins travailler en ville. Alors bon, c'est un autre... Hein, les pendulaires, hein, ça c'est un autre problème. Mais ceux qui essayent de monter une activité, de vivre et de travailler là où ils habitent, je dirais, ils refont du multiculturel dans le monde rural. Hein. C'est-à-dire qu'ils font que le monde rural n'est plus seulement agricole. Donc, ça peut être des vétérinaires, ça peut être une infirmière qui vient s'installer pour faire du soin à domicile, ça peut être un type qui monte sa boîte d'informatique ou de graphisme. On en a beaucoup, hein, on a beaucoup les gens, avec le télétravail aussi, hein, donc les gens qui peuvent travailler en campagne sans être forcément obligés d'aller tous les jours en ville. Ils y vont tant en temps parce qu'il faut négocier les contrats. Des intermittents du spectacle aussi, il y en a bien qui s'installent à la campagne parce qu'ils peuvent trouver des lieux pour répéter, etc. Des artisans aussi dans le bâtiment parce qu'il y a un marché. Je dirais que toutes ces nouvelles populations viennent rendre plus divers, hein, et faire que, je dirais, la vie dans la campagne devient un peu plus riche de cette diversité même. Voilà. Alors, ils sont plus ou moins bien acceptés. Je dirais, s'ils viennent d'un seul coup trop nombreux à un endroit, on peut avoir des phénomènes de rejet de la part de la population locale qui peut estimer que c'est plus elle qui fait la loi chez elle. Hein. Donc, les situations sont variables, mais... Je dirais, si les gens sont intelligents, c'est toujours comme ça, c'est aussi bien ceux qui viennent que ceux qui arrivent, chacun reconnaissant la richesse de l'autre, bon, même si les cultures sont différentes, hein, il faut bien insister sur ça. Précisément, vous, les artistes, vous pouvez être des passeurs, vous pouvez être des gens qui permettent que les uns et les autres se comprennent, par le biais d'œuvres, par le biais d'histoires, de contes, de pièces de théâtre, de musique. Bon, quand on rigole au même spectacle, ou quand on pleure au même spectacle, bon, on s'aperçoit qu'on est les mêmes, qu'on est fait pareil, quoi. Et puis on peut échanger après autour de la buvette. Et voilà. Donc, je sais pas, un festival comme celui-là, je trouve que ça témoigne un peu de cette tentative de... Effectivement, je pense qu'il y a un problème. Il va falloir inventer une façon de vivre ensemble. C'est un mot un peu galvaudé, le vivre ensemble. Mais là, c'est au quotidien. Moi, quand je suis arrivé dans mon petit village, il y avait la société de chasse. C'était la société de chasse qui décidait de ce qui se passait au conseil municipal. Hein. Le conseil municipal enregistrait ce que les hommes chasseurs avaient... Bon. Et puis les choses ont changé, mais voilà, c'est des cultures différentes. Les indigènes sont aussi des propriétaires fonciers. Et celui qui arrive, il n'a pas le même rapport à l'espace, il n'a pas le même rapport au territoire. Bon, tous les chemins qui sont ici, ils ont été faits par les arrière-grands-pères. Celui qui arrive en moto, il est détruit. Celui qui ouvre la barrière pour ramasser les champignons et qui ne la ferme pas derrière lui, ou celui qui marche dans les prés quand ils ne sont pas fauchés. Mais je dirais, moi, j'ai 60 ans, ma mère était issue de la campagne, je savais comment il fallait faire en campagne. Mais aujourd'hui, les jeunes gens n'ont pas cette culture. Hein. Bon, ils ne savent pas que si on ne ferme pas la porte derrière, les bêtes peuvent partir. Ils ne savent pas... toutes sortes de petits qu'on marche pas dans les prés quand ils sont pas fauchés, etc. Et on peut avoir là, je sais plus quelle était la question, mais on peut avoir là des occasions de brouille, enfin, pour des bêtises. On a souvent parlé des clochers parce qu'on a les cloches ici. Voilà, des gens qui, les nouveaux venus, qui disent les cloches m'empêchent de dormir. Alors que les cloches, c'est quoi ? C'est parce que celui qui est au bout du champ, il sait qu'il faut qu'il rentre pour la soupe. Voilà, c'était à ça que ça servait les cloches.
Oui. Mais par contre, on a rencontré des paysans qui nous ont dit que l'idée de faire de la vente directe, par exemple, c'était pas pour le chiffre d'affaires, parce que ça représentait pas grand-chose, mais ça représentait un plus culturel d'échange avec les gens. Et donc, est-ce que ces nouveaux ruraux, ils ont pas changé justement le rapport qu'il peut y avoir sur les échanges ? C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils venaient pas avec la culture de la ville, c'est-à-dire discuter avec les gens, se rencontrer dans les bars, etc. Ils ont pas essayé d'amener ça à la campagne.
Je dirais que le développement de ces marchés urbains, enfin ils ont toujours existé, mais plus des marchés de producteurs. L'intérêt aussi des nouveaux agriculteurs, appelons-les comme ça, pour les circuits courts et la vente directe. Donc il y a aussi un intérêt économique parce que on valorise davantage les produits. Mais comme
c'est la demi.
Comme ils le disent tous, et là j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui disent la même chose, c'est le contact humain qui permet de se rendre compte que, encore une fois, gens de la ville et gens de la campagne peuvent partager les mêmes valeurs. Du travail bien fait pour l'agriculteur, le maraîcher, l'arboriculteur et du produit de qualité pour le consommateur. Mais ce faisant, quand ils se rencontrent, ils ne sont pas seulement l'un un producteur, l'autre un consommateur. Ils deviennent deux êtres qui apprennent à se connaître. Et j'imagine que le producteur va lui parler de son village, que le consommateur va lui parler de ses soucis. Et bon, je dirais ce divorce qui était en train de se passer entre les agriculteurs productivistes d'un côté, qu'on voyait en ville que pour avec quand ils venaient mettre du purin sur la préfecture, et les citadins qu'on voyait en ville en campagne que pour marcher avec leur gros godillot. Bon, c'était assez artificiel comme rencontre. Je pense qu'autour du marché, du négoce, comme on dit, y a aussi d'autres choses qui se passent et ils insistent, je crois, tous sur cette dimension-là.
Justement, pour vérifier que ce que vous nous avez dit allait dans le sens de ce que certaines personnes pensent, on a donc rencontré Jean-Louis et Daniel Nicolas, qui sont exploitants et qui habitent au lieu-dit Nicolas. Donc, voilà, une tradition familiale. Et justement, ils parlent de la vente directe et de ce que ça leur a apporté de faire de la vente directe.
Moi, c'est Jean-Louis. Ma femme, c'est Daniel. Jean-Louis et Daniel Nicolas.
La vente directe, ça a commencé plus avec les confitures quand on a commencé la transformation. Et c'est vrai que l'atelier de transformation, ça, c'est pas un gros atelier, disons, c'est pas une grosse part dans la production, mais en fait, au niveau ouverture à l'extérieur, c'est ce qui a permis beaucoup de contacts, quoi, en fait. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de contacts grâce à cette transformation qui représente peut-être quoi, 10% du chiffre d'affaires, quoi. Mais au niveau contact avec la clientèle, même associatif, même. C'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes, quoi.
Ça a autant d'importance au niveau culturel qu'économique, quoi. Parce qu'en fait, c'est plus l'échange qu'on a. Bon, parce que notre clientèle, c'est vrai qu'en transformant des fruits en confiture, bon, notre principale clientèle, c'est pas une clientèle régionale du coin, puisque tout le monde fait des fruits chez nous, donc ils font leur confiture. C'est plus de la clientèle citadine, quoi. Et le fait d'avoir des contacts avec des consommateurs citadins, bon, ça apporte un autre regard culturel qu'au niveau local. C'est un échange qu'on a avec des gens qui ont une autre vie que nous, quoi, dans un autre milieu, et ça peut que nous enrichir, quoi. Je pense que c'est réciproque, d'ailleurs.
En scooter comme en tracteur, une seule fréquence.
Radio Potu 107.5.
Voilà, un scooter comme un tracteur, Radio Potu. Jean-Louis rigolait à la fin de cette possibilité d'échange et de rencontre, finalement. Et donc, je voulais aussi inviter les gens qui désiraient poser des questions, qui sont juste à côté de nous, à éventuellement nous rejoindre s'ils avaient des questions à poser à André Micou. Ils sont les bienvenus. On est en train d'installer tout ce qu'il faut pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions.
Voilà. Alors, on a beaucoup parlé d'agriculture, donc en attendant que quelqu'un vienne poser une question, on a beaucoup parlé d'agriculture. On va essayer de parler de culture parce que un des principes du festival, c'était la rencontre agriculturelle, c'est-à-dire qu'on mélangeait un petit peu les deux. On a toujours eu une vision, quand on est citadin, de la campagne comme un lieu très pauvre en culture. Est-ce que c'est vrai ? Et puis, est-ce que les néo-ruraux, qu'ils soient agriculteurs ou pas, ont changé la donne ? Et comment ils ont été perçus sur ça, justement ?
Oui, alors ça c'est un point très très important. Je parlais tout à l'heure de ces rencontres qui avaient eu lieu à Clermont-Ferrand. Une des conclusions, si ce n'est pas la plus importante des conclusions, c'était le problème des gens qui viennent s'installer à la campagne pour y vivre et pour faire vivre la campagne. Donc ces jeunes actifs, le principal problème c'est qu'est-ce qu'on fait le soir ? Donc il ne faut pas se cacher, les urbains ont pris les habitudes justement d'avoir une offre culturelle assez importante, et donc tous les élus qui étaient là ont bien pris conscience de l'importance d'offrir aux gens. Aujourd'hui on ne peut plus vivre à la campagne comme avant. Je dirais que la culture, précisément dans le monde rural, c'était autour de la paroisse, hein, autour de les activités théâtrales, amateurs, les chants chorales, etc. Bon, aujourd'hui, je pense que pour les gens qui habitent la campagne, le mot culture fait un peu peur. Parce qu'effectivement, il est trop assimilé à urbain,
artistes. Et je pense que là aussi, il y a des choses nouvelles à inventer. Donc ce festival, il en est un peu un exemple, pour montrer que la culture n'est pas réservée à l'élite, qu'elle n'est pas réservée aux urbains, mais que tout le monde y a droit et que tout le monde peut en tirer profit. Alors je pense que effectivement, les nouveaux habitants, appelons-les comme ça, hein, les nouveaux habitants qui arrivent avec leurs besoins culturels, bon, ben, par exemple, ils disent « mais ça serait bien qu'il y ait une bibliothèque ». Ici, il y a une bibliothèque. Et je pense que les gens d'ici, les indigènes dont on parle au début, ils sont très contents qu'il y ait une bibliothèque maintenant. Voilà, mais réponse à votre question, c'est bien parce qu'il y a eu des gens qui ont dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas une bibliothèque ?» Et souvent, c'est eux qui la montent. Et puis ensuite, tout le monde en bénéficie. Les espaces ruraux qui sont dans les parcs naturels régionaux, qui sont un peu qui correspondent à ces campagnes que j'ai définies tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans immédiate proximité de la ville, ils sont pas non plus à Dash, ils sont là où on peut aller se promener le week-end. Bon. Dans ces espaces-là, il y a des gens qui vivent. Les parcs naturels ont aussi beaucoup pris conscience de l'importance d'une activité culturelle permanente. Alors, les festivals, je pense que c'est quelque chose pour amorcer, un peu comme un... Mais ça doit aussi faire prendre conscience que qu'est-ce qu'on va faire tout le reste de l'année. Donc, c'est très bien. Alors, pendant le festival, on découvre des musiques nouvelles, des conteurs, des théâtres de rue, etc. Et puis après, je pense que là aussi, je me mets dans le coup, on a à réfléchir sur la manière de faire en sorte que les populations locales anciennes et nouvelles s'organisent pour justement monter une bibliothèque, monter une troupe de théâtre, faire venir des spectacles dans la salle des fêtes. Bon, y a des campagnes qui ont réussi ça, enfin, celles dans lesquelles je pense que dans l'Ardèche, par exemple, bon, on peut aussi bien, enfin, on peut très bien vivre en Ardèche. On a des spectacles régulièrement. Les villes proches sont pas loin. Il y a des programmations maintenant. Bon, voilà. Donc, là encore une fois, ça peut être différent d'un endroit à l'autre, mais là où il y a déjà une certaine expérience, la distance, la différence entre le monde de vie urbain et le mode de vie rural est en train de s'estomper. Là, toutes les études statistiques le montrent. Hein, donc, nous permettent d'être optimistes. On vit de plus en plus de la même façon à la campagne qu'à la ville. Hein. Bon, on regarde tous la même télé, ou pas.
On regarde pas la télé.
On écoute les mêmes émissions de radio. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a encore une différence, mais elle est en train de s'estomper. Hein.
Alors, dans les néo-ruraux, enfin, dans les gens qui viennent se réinstaller à la campagne, il y a une partie de la population qui est un peu particulière, c'est les artistes. Donc, il y a des installations d'ateliers d'artistes qui ont lieu à la campagne. Eux, en général, comment ça se passe? Est-ce que, alors, j'imagine que chaque endroit, c'est identique, mais est-ce que ils apportent quelque chose de différent? Comment se passe la cohabitation? Comment peut se passer la cohabitation avec les indigènes,
les autochtones.
Les autochtones.
Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier le fait qu'il y a des autochtones aussi qui peuvent devenir artistes, s'installer sur place, pas toujours opposer les... Ouais. Je pense qu'il y a bon, là j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, quoi, mais
à quelque chose qui marcherait, puis un exemple pour nous montrer que ce qui ne marche pas des fois.
Oui, alors, je dirais que un petit peu ce qui marche, c'est ce qui est intelligent, et ce qui marche pas, c'est ce qui est arrogant. Voilà, donc intelligent dans le sens où bon, les gens qui viennent s'installer, vivre dans un endroit, c'est pas eux qui l'ont créé, c'est pas eux qui l'ont inventé, ils viennent s'y installer. Il me semble qu'il y a tout un effort à faire de leur part, qui n'est pas toujours facile, pour comprendre le monde dans lequel ils arrivent et le respecter aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de mettre ses idées dans sa poche, hein, mais essayer de dire ce qu'ils ont à dire, alors que ça soit de forme plastique, artistique, chorégraphique, tout ce qu'on voudra. Essayer d'adapter l'œuvre au pays où elle va avoir à dire quelque chose. Hein. Si on vient vivre à la campagne, c'est parce qu'on va faire autre chose. Alors comment faire que l'œuvre qu'on veut faire soit, je dirais, en correspondance, soit en adéquation, soit en harmonie avec ce monde-là. Et ça, ça demande sans doute un peu du temps. C'est-à-dire que les premiers artistes qui arrivent, c'est un peu tout feu tout flamme avec leurs idées. Et puis, ils s'aperçoivent que le monde qui est là, ce n'est pas celui qui peut recevoir ce qu'ils ont à dire. Et puis, petit à petit, et alors, ce qui est intéressant, je pense, dans les œuvres artistiques et culturelles, c'est qu'elles ont une capacité à nous changer la tête, aussi bien urbain. Et je pense que les artistes peuvent être ces personnes qui vont à nous, je dirais à nous, urbains, nous faire prendre conscience, je prends un exemple, faire prendre conscience que le monde rural va moins vite que le monde urbain. Et c'est peut-être pas plus mal qu'il aille moins vite. Pourquoi est-ce que nous, on est toujours pressés? Pourquoi est-ce que le monde rural, il accorde beaucoup de place à la mémoire et à la fidélité, je veux dire, aux relations de confiance. Et donc, ce sont des valeurs aussi. Donc, à l'inverse, je dirais, le monde urbain va accorder davantage d'importance à l'innovation. Et c'est bien qu'il y ait l'innovation. Donc, voilà, je crois que ces deux mondes, l'un qui serait plus du côté de la tradition, attention, tradition, faut pas, quand je dis tradition, c'est pas traditionnaliste. Hein. C'est du mot latin, ça veut dire transmettre. Hein. Et je pense que nous autres, qui avons des enfants, on a tous envie, quand on a des enfants, on a envie de transmettre l'essentiel. Et donc cette valeur de la transmission intergénérationnelle, c'est quelque chose d'important que la modernité a un peu mis par-dessus bord. Hein. On a dit du passé, faisons table rase. Et puis on s'aperçoit que ce passé, il est aussi détenteur d'un certain nombre de valeurs qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, je pense que les gens qui redécouvrent une agriculture respectueuse de l'environnement, ils sont pas loin du grand-père qui disait, oulala, mais qui disait à son fils, mais qu'est-ce que tu fais avec cette histoire? Bon, tu tasses les sols, je prends un exemple, tu piques l'eau. Bon, cette espèce de vitesse, ce progrès auquel on a cru, bon, aujourd'hui, la campagne, elle peut être aussi un. Moi, je dis souvent que la campagne est l'emblème du fait que les formes de vie doivent être en adéquation avec les milieux de vie. Et une campagne réussie, c'est celle qui, au long des siècles, a appris à faire que la forme de la vie humaine et les milieux de vie humains s'entendent ensemble. Donc, quand c'est pentu, on fait des terrasses, là, on fait des goulottes. C'est-à-dire que le monde physique, le monde biophysique, il est présent aussi dans la campagne. En ville, le jour, la nuit, c'est toujours éclairé. Que ça monte ou que ça descende, on s'en fiche parce qu'il y a des escalateurs, etc. En campagne, les distances, elles ont du temps. Aller voir les gens ou bien pour les mamans, emmener les enfants à l'école, les ramener au judo, les ramener à la musique. On s'aperçoit que les routes, elles tournent. Hein, voilà. Donc, et quand il fait froid, qu'il faut déneiger, si vous voulez, il y a une présence physique, je pense, qui fait aussi qui est quelque chose d'important et que les urbains ont à apprendre. Et alors qu'il faudrait que ça soit fait tout de suite, ils sont à peine installés, qu'il faudrait qu'il y ait le déneigeur qui passe.
Voilà. Écoutez, avant de peut-être passer le micro autour de nous, puisque tout le monde s'est rapproché, on va écouter Françoise et Xavier Dupin qui ont reçu le premier spectacle du festival dans leur ferme. Et ils ont eu la particularité de prendre les instruments et de faire l'apéro. Ils nous parlent, on est allé les voir quelques jours après le spectacle, ils nous parlent un petit peu de ce qu'ils ont ressenti de l'arrivée du festival dans leur ferme.
Faire autre chose de notre ferme. Ouais. C'est ça qui était intéressant, c'était nouveau aussi. On a eu fait des portes ouvertes il n'y a pas longtemps, on a reçu des... quand on fait des portes ouvertes, on a du monde, hein. On a entre 400 et 600 personnes, donc on a un peu l'habitude de recevoir, mais là c'était nouveau, c'est pas nous qui organisions, nous on était juste receveurs, et on y a pris beaucoup de plaisir, quoi. C'était vraiment... en plus des gens... C'est vrai qu'il y a la plupart des gens qui sont venus, on les connaissait. Bon, il y a d'autres gens qu'on ne connaissait pas, d'autres spectateurs. Et puis, ça a été la rencontre avec toute l'équipe artistique. Ça, j'ai trouvé ça génial, moi. Ouais. Nous, nos enfants étaient super contents de recevoir des musiciens aussi, parce qu'ils sont tous musiciens. Et alors ça...
Oui, même pour notre famille, ça a été un bon moment. ça a été une opportunité pour qu'on fasse quelque chose avec nos gamins, enfin moi. J'aurais jamais pensé qu'ils accrochent comme ça. Donc c'était une chance pour nous. C'est comme je disais l'autre soir, je remercie moi, le festival d'être venu chez nous. Et comme disait François sur nos bâtiments, moi, le lendemain j'ai rangé des botterons dans ma grange. Et ben, au bout d'un moment, je me suis arrêté en disant mais attends, tu t'as vu hier soir comment elle était ta grange? Elle était allumée, il y avait un spectacle, il y avait 70 personnes. Et ben, c'est extraordinaire l'effet que ça peut faire. Son bâtiment, on met des bottes de foin tout l'hiver dedans pour ses vaches, qu'en l'espace d'une soirée, soit une salle de spectacle. Avec une arme, avec une histoire, avec quelque chose, quoi. Et ben c'est chouette, quoi.
Radio Potu 107.5.
Voilà, de retour sur la place de l'église, et nous avons une question.
Pas une question, quelqu'un qui va parler d'une expérience.
Une expérience,
de lien, de rencontre, justement, entre citadins et ruraux.
Voilà, moi je suis citadine, j'ai vécu à Paris. Je suis née et j'ai vécu à Paris. J'habite maintenant à Lyon. Il se trouve que j'ai passé mes vacances d'enfance à la campagne. Et je viens de vivre une expérience, peut-être que vous connaissez ce mouvement qui s'appelle le WOOF. En anglais, ça veut dire Willing Workers on Organic Farms, c'est-à-dire des volontaires qui travaillent dans des fermes biologiques, qui travaillent à mi-temps en échange du gîte et du couvert. Donc, il n'y a pas d'échange d'argent. Et ça m'a... Enfin, l'idée au départ est venue d'Angleterre il y a une trentaine d'années. Et c'était dans l'idée, je crois, justement que les citadins puissent aller rencontrer les agriculteurs et notamment les agriculteurs biologiques et que aussi les agriculteurs biologiques puissent bénéficier d'une aide puisque en agriculture biologique, on a besoin de travailleurs. Voilà, moi je viens de vivre cette expérience, pas en France, en Nouvelle-Zélande et en Californie. Je suis rentrée il y a 15 jours et c'est vrai que j'ai passé par exemple des heures à désherber des oignons notamment, et je me suis dit, et je suis infiniment plus respectueuse maintenant quand je vois un kilo d'oignons sur un marché en sachant le nombre d'heures de travail, surtout en biologique évidemment, que ça représente. Et donc je crois que pour moi, en tout cas, le pari était gagné. J'ai vraiment appris à respecter le travail agricole. Voilà, alors ce mouvement existe aussi en France, c'est-à-dire qu'en tant qu'agriculteur biologique, s'il y en a ici, vous pouvez accueillir à la fois des Français et des étrangers chez vous, leur offrir le gîte et le couvert en échange de 4 à 5 heures de travail par jour. Voilà, et en plus, c'est un échange culturel très intéressant, puisque ça m'a permis de rencontrer plus profondément des gens, des personnes, de travailler avec eux et de connaître des pays de façon un peu plus profonde.
André Micou.
Oui, c'est très bon exemple. On a quelque chose que vous connaissez peut-être aussi chez nous, enfin en France, et c'est aussi un mouvement mondial, c'est les AMAP. Donc c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il s'agit de citadins qui s'organisent et qui passent un contrat avec un ou plusieurs agriculteurs, maraîchers généralement, ils s'abonnent à un panier. C'est un mouvement qui se développe beaucoup. J'ai rencontré récemment le coordonnateur de la région Rhône-Alpes de ce mouvement. Il rejoint ce que je dirais un double. Il marche bien parce que les intérêts, les citadins et les ruraux trouvent leur compte chacun de leur côté. L'agriculteur est assuré d'avoir sa clientèle. Et les citadins sont assurés d'avoir des produits dont ils connaissent la provenance. Hein. Et en plus, c'est pas seulement un échange commerçant, parce que les citadins peuvent effectivement aller aider l'agriculteur et ils peuvent conditionner, préparer les paniers, etc. Donc, l'autre chose que je voulais dire sur cette connaissance, cette interconnaissance entre ruraux et citadins, je voudrais rappeler quelque chose, parce que c'est ce que vous avez dit des oignons qui m'y a fait penser. Sachez que l'agriculteur est une des rares personnes à travailler en public, sous le regard de tout le monde, et des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui travaillent. On travaille dans des bureaux, dans des usines, mais je dirais pas au vu et au su de tout le monde. L'agriculteur, quand il est dans son champ, tout le monde voit, et tout le monde lui dit « Mais pourquoi il met ci ? Mais pourquoi il met ça ? Mais il est encore avec sa sulfateuse ?» Et il faut toujours qu'il justifie ce qu'il fait. Donc voilà encore... Avant, on savait, quand on avait une culture de l'agriculture, c'est le cas de le dire, on savait. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il fait. Et cette profession est très mal connue. Alors, elle a peut-être des efforts à faire de communication. Dernier point, pour revenir un peu à notre thème de la culture des artistes, enfin, la culture artistique. J'aime pas bien ce mot de culture parce que... Il fait peur, quoi. Enfin, c'est comme France Culture. C'est intéressant quand on l'écoute, mais il faut avoir. Sinon, on croit que c'est pour les intellos. Bon, le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure, j'aurais jamais pensé. Mais voilà ce que fait la culture. Elle produit cette phrase-là. J'aurais jamais pensé. J'aurais jamais imaginé que des artistes, mes enfants pourraient jouer avec eux. J'aurais jamais pensé que ma grange, ça puisse devenir quelque chose. Voilà, c'est ce petit truc. Ça fait changer quelque chose dans la tête. J'aurais jamais pensé. Voilà. On a fait bouger quelque chose et je pense que ce monsieur et remercie le festival. C'est la meilleure preuve de réussite. Enfin, je dirais, bon, il atteste de ce que. Même il n'y aurait eu que ça, c'était bien. Voilà, ça, c'était bien.
On a une nouvelle intervenante qui veut placer une petite question.
Oui, on continue dans les parisiennes. Donc moi, je suis parisienne aussi. Et ça fait 18 ans que je suis venue dans la région avec mon compagnon. Et c'est vrai qu'on a acheté une ferme. Et c'est vrai qu'on se sentait un peu coupable d'acheter une ferme parce qu'elle ne pouvait pas être reprise par un agriculteur. C'est une vieille ferme en pisé et tout. C'est vrai qu'on avait envie de faire plein de choses dans cette ferme. Donc on a des animaux, on fait comme un vrai paysan, on espère. Même moi, je suis secrétaire d'accueil paysan, donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment envie de militer là-dedans. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été dur parce qu'on est quand même considérés un peu comme des Parisiens qui viennent dans les campagnes piquer les fermes, alors que ces fermes sont peuvent plus être exploitées comme maintenant. Avec des gros tracteurs, ils ne peuvent même pas passer dans les cours et tout, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle espère. Donc c'est des maisons qui sont super empisées et moi je suis très fière d'avoir participé à ça. Et puis j'ai rencontré des tas d'agriculteurs super chouettes et je suis super contente de les connaître et je suis super contente de connaître tout le monde ici aussi. Et c'est vrai qu'on est heureux de pouvoir faire des choses dans les campagnes parce que c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a justement ce problème de culture qui fait peur, quoi, ou les étrangers, tout simplement, ceux qui viennent d'ailleurs, ils font peur et on refuse de les voir et on refuse de les rencontrer, c'est tout, parce que c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. Voilà.
Voilà, pour revenir sur le statut de l'agriculteur, parce que là, on a parlé un peu de revalorisation, de dévalorisation. On a l'impression que le statut d'agriculteur était un statut très dévalorisé à la fin des années 90, quand on s'est rendu compte que, finalement que l'agriculteur était responsable d'une partie de la destruction de l'environnement et de la pollution des eaux, notamment. Et est-ce que les néo-ruraux qui sont mis à l'agriculture n'ont pas redonné une bonne image de l'agriculteur?
Je dirais néo-ruraux, j'emploierais plus l'expression, parce que elle est datée et elle est connotée hippie, quoi. Enfin, elle est connotée un peu baba cool. Oui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens. Je vous disais, dans les écoles d'agriculture, il y a de moins en moins de gens qui sont issus de familles agricoles. Alors qu'avant, c'était 99%. Hein. On reprenait la ferme. Aujourd'hui, ce sont des nouveaux qui s'installent, qui font des formations, qui obtiennent la DGA, etc. Donc, si je parle de ces nouveaux qui s'installent, ils vont forcément changer l'agriculture. Puisque, j'ai bien entendu la question des néo, mais je pense que on n'est plus là maintenant. On est à un autre stade où des gens ont envie de faire de l'agriculture raisonné ou biologique ou une autre agriculture et ce qu'on peut raisonnablement espérer c'est que la profession agricole tout entière va petit à petit se rapprocher. Bon, je le sais que dans les hautes sphères on le pense, mais les mentalités ont tellement été formées à la productivisme qu'il faut. Le productivisme, parlons-en deux minutes, c'est une fierté. Enfin, il faut imaginer, c'est une fierté pour des gens. Ils ont été formés à produire le plus de quintaux à l'hectare, etc. Bon, c'est déchoir que de ne pas arriver à produire. Donc, Ce qu'on demande à ces gens, c'est de changer de modèle. Hein. C'est comme quand on demande à une institutrice qui a fait la méthode globale, on lui dit « vous avez tout faux, il faut faire la méthode syllabique ou l'inverse, quoi. » Attendez, un instituteur ou une institutrice, on demande à des gens effectivement, de changer leur référentiel, comme ils disent les énarques. Bon, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de difficile. Hein, et donc, on peut comprendre que cette profession soit, je dirais, elle est en crise. Enfin, on emploie ce mot un peu à tort à travers, mais là, c'est vrai. Quoi. Elle est en train d'essayer de se redéfinir une place. Et je pense que le mouvement des nouveaux, les gens qui s'installent à la campagne ont une responsabilité par rapport à cette profession. Je le dis un peu, c'est peut-être un grandiloquent, mais je pense qu'une responsabilité pour accompagner la mutation que cette profession est amenée à suivre aujourd'hui. Et ça serait dommage que, je dirais, les nouveaux installés exacerbent les oppositions, alors qu'il faut plutôt travailler à faire que, bon, ensemble, on fabrique, encore des grands mots, on fabrique un nouveau vivre ensemble, quoi.
Il y a aussi le mot est peut-être un peu fort, mais un petit conflit, je vais mettre petit, oui. Un petit conflit de génération aussi entre les nouveaux exploitants et les parents. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Comment dire là?
Sur cette évolution, en tout cas, de l'agriculture.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la mutation qu'il faut faire aujourd'hui, je dirais, pour caricaturer le père qui, lui, a travaillé sur un certain modèle, il dit « je ne vais pas changer maintenant », et le fils qui est allé au lycée agricole, on dit « mais papa, il ne faut plus faire comme ça ». Et donc, entre les deux générations, bon, il va y avoir des ajustements. À propos de génération, je change de sujet, mais il faut aussi penser qu'il y a un phénomène important qui est l'arrivée. J'ai beaucoup parlé des actifs, mais il y a aussi des retraités qui viennent vivre à la campagne. Et là aussi, ça peut être. Je pense qu'il faut réfléchir à la manière d'intégrer, la manière pour ces retraités de s'intégrer dans la vie. Alors. Ils peuvent s'investir dans des associations, ils peuvent s'occuper à la garderie, etc. Je pense que là aussi, il faut réfléchir à des manières de faire pour que nos villages ne soient pas des villages résidentiels, comme on peut le voir dans certains endroits du Canada où on parle de il n'y a pas de mot pour traduire en français cette gentrification, c'est-à-dire qu'en gros, les couches moyennes transformerait la campagne en un espace résidentiel bien tranquille, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, on a des élus là. Ce colloque de Clermont-Ferrand disait, ils commençaient à voir le phénomène. Des gens se sont installés dans un village, et puis maintenant, ils disent vers les élus, mais là, il faut qu'il y ait plus personne. Hein. Maintenant qu'on est bien là, on est tranquille. Alors, il faut plus accorder de permis. Le village, il veut continuer à vivre. Hein, alors, pas à n'importe quel prix, mais faisons aussi, je pense, attention à des villages qui deviendraient un petit peu des villages poupées, quoi, des villages tout jolis, mais où il n'y aurait plus que des retraités qui seraient dans leur télé. Quoi.
Assiste-t-on à ça? Et vous, en tout cas, comment vous voyez justement cette articulation qu'on a décrite pendant une heure, sur en tout cas sur l'évolution et cette rencontre des deux, de deux populations, est-ce que vous pouvez, vous, est-ce que vous avez des réflexions sur, un peu de prospective sur qu'est-ce qui va comment ça va s'assembler?
Moi, je pense que l'avenir, comme toujours, dépend de nous. Hein. Ce que je peux dire, c'est que on attend la fin des cloches, ou si je parle assez fort, c'est bon.
Ça doit passer. C'est 7 heures.
J'aime bien les cloches, moi, ça me dérange pas. Il est en train d'être signé actuellement une charte de l'accueil en milieu rural, qui est signé par un très grand nombre d'associations, des maires de France, de la Fédération des parcs naturels, des accueils paysans, enfin, toute une série d'associations qui vont signer une charte. C'est quoi? Une charte, c'est on s'engage ensemble à faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Donc, et cette charte, précisément, bon, elle manifeste la prise de conscience par la société, parce qu'elle va être signée officiellement avec le président de la DATAR, donc ça ne s'appelle plus DATAR, mais la délégation d'aménagement du territoire. Ça atteste la prise de conscience que notre pays, qui est un des pays les moins peuplés enfin, de l'Europe, hein, en habitants au kilomètre carré, si vous regardez avec un satellite, c'est tout vide, hein, donc il y a de la place. Hein. Mais que notre pays a pris conscience de l'importance de ce phénomène, de nouvelles populations qui investissent les campagnes, avec sa face sombre dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'augmentation des circulations des voitures. Hein, parce que, bon, il va y avoir forcément, venir habiter la campagne, c'est faire plus de kilomètres par jour. Même si on y vit et qu'on y travaille, il faut descendre quand même, il faut aller à la ville, il faut donc avec le prix du pétrole, c'est une autre facette du problème dont on n'avait pas parlé, mais qu'il faut quand même signaler aussi. Hein.
Et justement, dans les aspects négatifs, il y a un problème de coût de l'immobilier qui vient se greffer là-dessus. On a une idée de l'impact que ça peut avoir sur les gens qui voudraient s'installer, par exemple.
Ah ben ça, c'est un gros problème actuellement. Surtout le logement locatif en milieu rural est de plus en plus inaccessible parce que les propriétaires immobiliers en campagne préfèrent garder leurs biens pour les louer à des touristes. C'est plus rentable. Et on a un problème pour les gens qui viennent s'installer et qui ne peuvent pas acheter compte tenu de l'augmentation des prix. Alors, les sociétés d'HLM sont de plus en plus maintenant incitées par les collectivités territoriales à aider les municipalités à remettre sur le marché des habitats locatifs, en les remettant aux normes, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on vient à la campagne qu'on n'a pas besoin du confort, mais en les remettant aux normes, avec notamment des qualités énergétiques, écologiques, donc... On pourrait aussi avoir une campagne dans laquelle on aura un habitat conforme aux exigences environnementales. Mais ce problème du foncier, je dirais, pour dire, puisque je reviens là de ces journées à Clermont-Ferrand où c'était le sujet, deux problèmes principaux, le foncier et le développement culturel dans les campagnes. qui va falloir accompagner, qui va falloir et pas seulement, je dis encore une fois, pas seulement sous forme d'événements ponctuels, de festivals, c'est très bien, ça fait rencontrer les gens, c'est des moments festifs où on peut dire des choses qu'on peut pas dire au quotidien, mais aussi d'autres choses comme une radio, par exemple, comme ce genre de choses, enfin, qui permettent une vie culturelle que les citadins demanderont. Ils demanderont une vie culturelle, ils demanderont des services. Donc des haltes garderies, des écoles maternelles, bibliothèques, soins aux personnes âgées, etc. Donc les collectivités territoriales qui vont se regrouper pour ça vont, dans les années qui viennent, vont avoir à régler ces problèmes.
Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, elles sont les bienvenues, puisqu'il nous reste quelques petites minutes avant de rendre l'antenne à nos studios situés tout en haut du Mont Potu, ou presque. Je voulais vous poser une question. On n'a pas trop abordé cette question, mais sur le tourisme à la campagne. On l'a évoqué, mais sans en parler précisément. Voilà, il s'est développé ces dernières années.
Oui, il se développe, mais il se développe moins que ce qu'on aurait pu espérer. Hein.
C'est un festival en fanfare.
Alors, il participe beaucoup, je crois, à la vie économique hein, des campagnes, pas seulement par les résidences d'été. Par l'activité qui génère. Là aussi, je pense qu'on peut raisonnablement espérer une croissance dans les prochaines années au nom du tourisme doux. Hein, c'est-à-dire le tourisme doux, c'est effectivement un tourisme qui consommerait moins d'énergie. Donc là, je reviens de Suisse. où on nous a exposé tous les travaux qui sont en train d'être mis en place actuellement pour se promener à pied, en vélo et même en roller. Donc des circuits, nos voisins suisses développent beaucoup cette idée de tourisme doux.
C'est la ville qui vient à la campagne ?
Non, c'est un tourisme où il faut que je puisse aller à mon point de départ avec des transports collectifs et qu'ensuite je me déplace avec l'énergie que je produis avec mon corps. Voilà.
Faut pas que ça soit trop montagneux.
Oui.
C'est un peu dur ici.
Oui, mais ce qu'on appelle le tourisme vert, alors là, en septembre, il y a un autre colloque à la Bourboule qui est consacré au tourisme vert, tourisme rural, qui est, il ne faut pas l'oublier, qui est un des... Notre pays, le principal poste de la balance commerciale, c'est le tourisme. Hein, et ça vient de ce que nos paysages sont beaux et de ce que nos campagnes sont préservées. Donc je pense que les Hollandais qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, ils sont heureux de trouver aussi cette campagne que nos ancêtres ont... Donc c'est aussi notre responsabilité, je dirais, nationale, de faire en sorte que les paysages qu'on aime, reposants, campagnards, bucoliques, ne soient pas défigurés. Hein, je pense aussi que c'est un... Il faut appeler les choses par leur nom, c'est aussi un point important, ça, dans la... Et ça, il y a beaucoup de villages qui seraient morts sans la petite guinguette, sans les gîtes ruraux, sans les accompagnateurs de moyenne montagne. Il y a beaucoup de petits villages qui vivent de cette... Alors là aussi, le tout tourisme, c'est comme le tout nucléaire, hein, c'est le tout tourisme. Entraîne des inconvénients. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait la qualité de la vie sociale, encore une fois, c'est le fait qu'on soit différent et qu'on s'enrichisse de nos différences. Et quand il y a un endroit où il n'y a plus que des touristes et des usines à touristes, c'est triste, quoi. Il faut qu'il y ait une vie, la vraie vie.
Donc, est-ce que quelqu'un veut encore intervenir une dernière fois ? Il nous reste environ 4 minutes d'antenne avant que les émissions en direct s'arrêtent. Donc, on va peut-être conclure. Donc, on a l'impression, avec ce festival, que le vivre ensemble, comme vous disiez, est possible et que la rencontre, finalement, culture, agriculture, parce que c'est un festival qui a fait ce lien-là, est possible. Est-ce qu'il y a des spécificités par région, par exemple ? Parce que là, on s'est dit, ça a marché dans ces fermes, on s'est baladé dans plein de fermes, et les rencontres ont été intéressantes, très enrichissantes. Est-ce que ça marche aussi ailleurs ?
Oui, ça se développe beaucoup, mais je dirais dans des régions qui sont à proximité quand même, pas trop éloignées des grands centres urbains. C'est quand même la caractéristique principale des expériences que je peux connaître. Il faut que ça bouillonne à côté un petit peu. Quand on va dans le fond du Morvan ou dans le fond du Cantal, c'est plus difficile, quoi. Peut-être qu'on aura un espace rural qui sera ségrégé dans je ne sais plus combien, dans 50 ans, où on aura des réserves naturelles, des endroits où ce sera la forêt qui aura gagné, d'autres endroits où ce sera des régions agro-industrielles, ou de la vigne, ou de l'arboriculture, ou de la sériculture. Et puis d'autres endroits, moi c'est ce que j'appelle la campagne, où il y aura de la culture et de l'agriculture. On pourra vivre et travailler. Je pense que c'est cet espace-là qui est assez caractéristique de notre mode de vie. Hein. Je me souviens d'avoir traduit un article d'un Américain qui venait en France et qui était esbaudi de voir qu'il y avait des parcs naturels régionaux où il y avait des gens qui vivent. Parce que pour un Américain, un parc naturel, c'est forcément un truc où il n'y a que des ours et des... à mesure que j'avançais dans la traduction, il disait « Mais il faut qu'on fasse la même chose que chez nous. » Parce qu'il y a effectivement des endroits qui sont beaux parce que l'homme y a travaillé et parce que l'homme l'a entretenu depuis des siècles. Voilà, donc la campagne, c'est ça, c'est de la culture et de l'agriculture. Et il faut bien que les deux tiennent pour que, les paysages et la qualité de l'environnement aussi, et des qualités de la vie aussi, il faut dire ce qu'il y a, parce que la dame, comme la dame disait tout à l'heure, elle était heureuse de vivre ici. Bon, c'est le mieux, ce qu'on peut souhaiter.
Bon, on va terminer sur ces belles paroles. On va vous remercier d'être venu apporter un peu de savoir et de recul sur ces questions, parce que nous, on n'a pas forcément ce savoir et ce recul. Et puis on va redonner l'antenne à nos studios Conak Potu là-haut
sur la montagne.
Là-haut sur la montagne. Et en plus, c'est un moment un peu qui nous
voilà, fait
un petit pansement. C'est le dernier moment en direct de cette radio éphémère.
C'est le tout dernier instant en direct, mais la radio continue jusqu'à
demain matin.
Donc si vous voulez en profiter, vous pouvez faire une nuit blanche en écoutant Radio Potu sur les 107.5, il n'y a aucun souci. Et dans quelques minutes, sur la place de l'église va commencer le bal à Bistan, qui sera suivi à 21h de la compagnie des Musicawir, suivi de la Mescla, et tout ceci se passe à la salle des fêtes.
Merci à vous aussi.
Merci à vous, merci.
Et merci au public.
Au public qui était là. Merci. La, la, la.
Les apéros radiophoniques. L'aperitivo per la radio. Aperitivo per la radio.
Radio Potu.
Les apéros radiophoniques.